Souvenirs de famille. Pierre Gaxot de l'Académie française est évoqué par son neveu Philippe Gaxot.
Je dois beaucoup à Pierre Gaxot, il m'a apporté beaucoup en me parlant. Il a certainement beaucoup influencé ma façon de voir les choses. Pierre Gaxot était célibataire, j'étais un petit peu son fils. Il a été vraiment un deuxième père, alors que mon propre père est décédé très jeune. Donc je dois beaucoup, beaucoup à Pierre Gaxot.
L'académicien Pierre Gaxot, né en 1895, mort en 1982, fut élu à l'Académie française en 1953. Historien, Pierre Gaxot a écrit de nombreux ouvrages d'histoire qui ont marqué leur temps et qui ont connu plusieurs éditions, parmi lesquelles La Révolution française, Le siècle de Louis XV, Frédéric II. On se souvient de lui comme chroniqueur de presse à Candide, au Figaro, au magazine Elle, où ses articles étaient fort appréciés. Restez en compagnie de Philippe Gaxot, le neveu et dépositaire de la mémoire de l'académicien historien Pierre Gaxot.
C'est l'histoire d'une famille lorraine. Je suis né en 1938 dans une petite ville qui s'appelle Senones-en-Salme, qui a la particularité d'avoir été la capitale d'une toute petite principauté, la principauté de Salme, qui dépendait d'un prince de Salme, lui-même allemand, et il vivait dans son château de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Cette petite principauté a été réunie à la France en 1793, c'est-à-dire un tout petit peu après la Révolution. Mon oncle Pierre Gaxot, lui, est né en 1895 à Revigny, dans la Meuse, c'est-à-dire également en Lorraine. Toute la famille est d'origine lorraine. Il a très bien raconté son enfance dans un petit livre intitulé « Mon village et moi ». Il raconte son enfance qui n'a pas toujours été facile parce que le village a été détruit pendant la Première Guerre mondiale et il raconte comment il a retrouvé la maison où il est né totalement en ruine. C'était la maison de ses parents, son père était notaire à Revigny. Il a quitté ce village pour faire ses études jusqu'à son baccalauréat au lycée de Bar-le-Duc. Il a toujours été très lié à sa famille. Il avait une correspondance avec ma mère qui a été très suivie, où ils échangeaient des idées sur la littérature, les livres qui sortaient, lui racontaient la vie parisienne. Bon. De temps en temps, quand il allait en Allemagne pour faire ses études historiques sur ce pays, il s'arrêtait généralement dans les Vosges pour rencontrer la famille, mes parents, mon oncle, et voilà. Personnellement, j'ai vécu mon enfance auprès des bûcherons. Mon père était exploitant forestier, donc c'était formidable. Et ensuite, j'étais interne au collège à Nancy, où j'ai passé mon baccalauréat. Et là, il y a eu un grand tournant dans ma vie, et Pierre Gaxot a joué un rôle important, car je voulais faire des études de médecine. Il m'a dit, il faut absolument venir à Paris pour vous ouvrir au monde. Je ne saurais trop le remercier a posteriori. C'est seulement à partir de l'année 58 que je l'ai vu très régulièrement. J'avais une chambre d'étudiant dans le 14e arrondissement, pas loin de chez lui, qui habitait également dans cet arrondissement. Et très régulièrement, il me faisait signe, un petit coup de fil ou un pneumatique. À cette époque, on envoyait encore des pneumatiques en me disant « Philippe, est-ce que vous voulez venir tel soir ? Je vous invite à la première de tel théâtre ou de tel spectacle de music-hall ou de musique. » Et cela m'a beaucoup aidé dans mon entrée dans la vie parisienne.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
J'avais donc 20 ans et lui 56 ans à peu près. Alors à propos du 14e arrondissement, je tiens à signaler qu'il a toujours vécu rue Froidevaux, un appartement qui donnait sur le cimetière Montparnasse, donc il aimait bien avoir le silence du cimetière sous ses fenêtres pratiquement. Il est toujours resté, je ne sais plus en quelle année, et peu après la guerre, André Siegfried avait écrit un article, je crois dans le Figaro, en disant que Paris changeait, la population se déplaçait vers l'ouest, et il disait par exemple que la plupart des académiciens avaient migré dans le 16e arrondissement. Peu de temps après, Pierre a écrit un article dans Le Figaro en disant que lui restait dans le 14e et il faisait l'éloge du 14e arrondissement qu'il aimait bien. Et aussi à ce propos, il avait fait l'éloge d'un petit livre que Michel Audiard avait publié. Ce petit livre, je crois, s'appelait « Vive la France », un livre plein d'humour, comme pouvait le faire Michel Audiard. Dans cet article, Pierre avait dit « C'est vraiment, je vous recommande ce livre ». Cependant, je ne peux m'empêcher de traiter Michel Audiard de déserteur, car il a quitté le 14e. Ce qui a valu une réponse de Michel Audiard, une lettre que j'ai conservée, qui est tout à fait charmante. Michel Audiard dit « Mon cher maître, je suis très honoré que vous ayez parlé de mon livre. Vous savez, nous autres gens du spectacle, on écrit plutôt dans les cahiers du cinéma, des choses comme ça. Merci, merci mille fois. Quant aux déserteurs du 14e arrondissement, eh bien bon, je suis un peu honteux, mais j'espère que vous me pardonnerez. Enfin, sur ce style, mais avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amitié. »
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris.
Mon oncle Pierre Gaxot n'était pas seulement l'historien que beaucoup connaissent pour avoir écrit le siècle de Louis XV, bon, la Révolution française, l'histoire de l'Allemagne, etc. En effet, quand il a quitté la Lorraine, en novembre 1914, il est entré en Cagne au lycée Henri IV. Ensuite, en 1917, il entre à Normale supérieure et il obtiendra l'agrégation d'histoire en 1920. Comme il était plutôt désargenté, bon, sa famille avait beaucoup souffert de la guerre, il était à ce moment-là externe à Normale Sup, tout au moins au début. Et pour gagner sa vie, heureusement, Artem Fayard, qui était son correspondant à Paris, l'a présenté à Maurras, qui lui a demandé de devenir secrétaire de nuit, ce qu'il fit pendant un certain temps, assez bref, de décembre 1917 à juillet 1918. Donc en 1920, il obtient l'agrégation d'histoire pour avoir écrit un mémoire sur la corvée et les routes royales au XVIIIe siècle, ce qui l'a vraiment fait déjà beaucoup travailler sur l'histoire de France et qui expliquera la suite. Il a été ensuite, pendant un temps assez bref, professeur d'histoire, notamment au lycée d'Evreux. Et à la suite d'une erreur administrative, un ancien professeur est revenu, a repris son poste. Il a dû cesser. Et là encore, son correspondant Artem Fayard, qui l'appréciait beaucoup, l'a fait entrer, j'allais dire, dans son empire, car ça a commencé à devenir un empire. Et notamment pour travailler à la rédaction de l'hebdomadaire Candide, dont il est rapidement devenu rédacteur en chef. Il a été rédacteur en chef de Candide de 1924 jusqu'à 1940, quand la maison Fayard s'est retirée en zone libre à Clermont-Ferrand. Cet hebdomadaire avait beaucoup de succès. Son tirage a atteint à certains moments environ 400 000 exemplaires, ce qui était énorme, ce qui explique que Pierre Gaxot a rencontré énormément de personnages de l'époque, de l'entre-deux-guerres. Le monde des lettres, bien sûr, mais aussi le monde des arts, de la musique, du music-hall, de la chanson. Il avait compris très tôt l'avenir de la reproduction phonographique. En effet, en 1931, il propose à Artem Fayard de constituer le jury d'un grand prix du disque. Et Colette, qu'il appelait mon professeur d'histoire, Maurice Ravel, Maurice Yvain, ont fait partie du jury. Le premier palmarès a couronné, entre autres, la chanson « Parlez-moi d'amour » chantée par Lucienne Boyer.
Votre beau discours, mon corps n'est pas loin de l'entendre. je vous aime.
Il a rencontré le tout Paris, il s'est fait beaucoup d'amis, des ennemis aussi, bien sûr, notamment en politique, mais il n'était pas mondain. On ne le rencontrait pas dans les grandes soirées mondaines ni tout ça. Il aimait voir ses amis en petit comité, dans l'amitié. Il aimait beaucoup la conversation et que cette conversation se déroule d'une façon pleine, intense, entre amis. Et c'est comme ça qu'il aimait bien répéter cette formule. J'aime bien me rencontrer dans des dîners, à condition que nous soyons plus que les grâces et moins que les muses, c'est-à-dire entre 4 et 8. Il n'aimait pas le brouhaha des cocktails mondains et tout ça, pas du tout. Personnellement, je l'ai surtout fréquenté quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études de médecine. Le petit Lorrain qui arrivait du fin fond des Vosges découvrait Paris dans les meilleures conditions. Il m'invitait parfois aussi dans de très bons restaurants, ce qui était fort agréable pour le jeune étudiant habitué aux restaurants universitaires. J'ai pu rencontrer au tout début, avant qu'elle ne disparaisse, Madame Artem Fayard, qui était une grande dame, qui avait un salon littéraire à Paris. Ensuite, j'ai eu l'occasion de dîner une fois avec Monsieur et Madame Ionesco. Vous imaginez à quel point j'ouvrais mes oreilles et je parlais peu. Au cours de ces conversations, que tous ses amis appréciaient beaucoup, il avait beaucoup d'humour et on riait bien, ça j'ai beaucoup de souvenirs dans ce sens. C'était un homme qui avait énormément d'humour, ce qui est peut-être moins connu. Il s'exprimait dans des termes toujours simples, précis, absolument pas ampoulé. Il ne pontifiait jamais et c'est une des raisons pour lesquelles tous ceux qui l'ont approché pratiquement ont beaucoup apprécié. Et pourtant, sa santé était loin d'être excellente. Très tôt déjà, en 1930, on a diagnostiqué ce que les médecins appellent une tumeur blanche du coude, c'est-à-dire une tuberculose osseuse qui a bloqué son articulation du coude, heureusement du bras gauche, ce qui est le moindre mal pour un écrivain. Et c'est le docteur Guérin, le co-inventeur du vaccin BCG, Bacille Calmette-Guérin, qui lui a administré son vaccin à cette époque, ce qui a, je ne dirais pas guéri totalement sa tuberculose, mais au moins l'a laissé tranquille pendant de nombreuses années. En effet, en 1950, il est tombé gravement malade et heureusement, il a été confié au professeur de Gênes, le grand spécialiste des maladies endocriniennes, qui a diagnostiqué ce qu'on appelle une maladie d'Addison, c'est-à-dire une destruction par la tuberculose des deux glandes surrénales. Or, les glandes surrénales sécrètent en gros la cortisone, qui est une hormone absolument essentielle à la vie. Ayant fait ce diagnostic, le professeur de Gênes ne lui a pas caché que le pronostic était dramatique dans les mois qui suivaient. Il était donc condamné à mort par cette maladie et heureusement, quelques semaines après, le même professeur de Gênes lui téléphone en lui disant « Écoutez, c'est formidable, je vais pouvoir disposer de la cortisone qui vient d'être mise au point par les Américains. Venez vite me voir, on va commencer le traitement. » Eh bien, grâce aux dérivés cortisoniques qui ont été améliorés ensuite sans arrêt, il a survécu pendant 30 ans. Comme je l'ai dit, s'il n'était pas vraiment mondain, en revanche, il appréciait beaucoup la vie parisienne. Il assistait très très fréquemment au théâtre, au music hall, où il s'est fait des amis. Tout récemment, nous avons fait publier la correspondance qu'il entretenait avec Jean Anouilh. Il a pratiquement assisté à toutes les premières de Jean Anouilh. Et de temps en temps, quand Anouilh quittait la Suisse pour venir à Paris, je sais qu'ils dînaient ensemble. Ça a été pareil avec le monde de la musique. Les chroniques qu'il écrivait dans Le Figaro, après-guerre, portaient assez fréquemment sur des pièces de théâtre, ce qui lui valait des échanges de lettres avec des acteurs comme Jean-Louis Barrault, des actrices comme Béatrice Bretty, qui était une de ses grandes amies, ou encore de Gaby Morlaix, qui était une de ses grandes amies. Je sais qu'elle l'invitait dans sa maison de campagne qui était près de Bougival, où elle entretenait un jardin, paraît-il, très très fleuri. Et là encore, échange de lettres tout à fait charmante. Peu après l'invasion allemande, en 1940, la maison Fayard s'est repliée en zone libre à Clermont-Ferrand. Et il a fait partie, évidemment, du groupe. Et il s'est installé, il a trouvé un logement à Clermont-Ferrand. Et il continuait là à écrire des articles sur Candide. À ce moment-là, il s'était séparé, ainsi que Artem Fayard, de l'hebdomadaire Je suis partout, qui, au départ, avait été créé par Fayard pour être un journal international, ce qui était un peu une nouveauté, mais qui a beaucoup dérivé, comme tout le monde le sait. Donc, à Clermont-Ferrand, il écrivait des articles, souvent sous un pseudonyme, si bien qu'un jour, les agents de la Gestapo sont venus à Clermont-Ferrand pour l'arrêter. Ils sont arrivés, il faut dire que la maison Fayard était implantée dans une rue, la rue Blatin, et il y avait dans un immeuble l'imprimerie, qui imprimait non seulement Candide, mais aussi Ricarac, et également le journal La Montagne de Clermont-Ferrand. Et les bureaux Fayard étaient un peu plus loin dans cette même rue. Heureusement, les agents de la Gestapo sont arrivés, ils se sont trompés d'immeuble, ils sont arrivés à l'imprimerie. Et ils ont dit « on veut voir M. Garotte ». Les ouvriers de l'imprimerie ont dit « on ne connaît pas de M. Garotte ici ». Mais parmi eux, à côté d'eux, il y avait un certain Max Favalelli, que tout le monde connaît, qui a tout de suite compris, et il a filé en douce jusqu'à l'immeuble des bureaux pour prévenir Pierre. Mais malheureusement, celui-ci n'était pas encore arrivé à son bureau. Il s'en est entretenu à celui qui était à l'époque le secrétaire général de la maison Fayard, un certain monsieur Toussaint, que j'ai rencontré récemment, qui est presque centenaire, qui est un homme charmant, qui m'a raconté dans les détails ceci. Ce monsieur a pris sa bicyclette et est allé prévenir Pierre Gaxot à son domicile. Celui-ci s'est enfui immédiatement par le premier train et il est allé à Varennes-sur-Allier, dans une maison qui appartenait, je crois, au père de Favalelli. Et là, on pourrait presque parler de fuite à Varennes. Il s'est caché avec donc Favalelli, avec Jean Barrère, qui était aussi au journal Candide, et Mitty Goldin, qui était le directeur du music hall ABC à Paris, et qui, en tant que juif, lui, était particulièrement recherché. Et toute cette petite bande est restée à Varennes en se cachant jusqu'à la Libération.
Paris! Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
Juste après la Libération, Pierre Gaxot, comme beaucoup d'autres, est revenu à Paris, mais il fallait qu'il gagne sa vie. Et heureusement, il a été très aidé par son ami Pierre Lazareff, qui était déjà important dans la presse. Et Pierre Lazareff lui a ouvert les pages de France Soir, une chronique régulière qu'il signait sous le pseudonyme de Pangloss. Et quelques mois après, je crois en septembre 1945, Hélène Lazareff, l'épouse de Pierre Lazareff, qui lançait le journal moderne féminin Elle, lui a demandé de devenir le directeur littéraire de Elle, ce qu'il fit, et il y est resté pendant un an et demi. Pour la petite histoire, c'est là qu'il a rencontré avec Hélène Lazareff et lui-même, ils ont embauché une jeune personne qui se lançait dans le journalisme, qui était Françoise Giroux. Et il est resté très, très ami, très lié avec Françoise Giroux, comme la correspondance que j'ai retrouvée peut le montrer.
Dans l'un de ses articles parus dans le journal France Dimanche, sous un gros titre, Louis XIV a payé la chambre à coucher de Gaxot, l'historien des Français. La jeune journaliste Françoise Giroux écrit « La petite maison que Gaxot possède à Amboise manquait de confort. En montrant les aménagements nouveaux, Gaxot annonce « Ça vous plaît ?» Je les ai payés avec Louis XIV. La voiture, c'est Louis XV. Marché honnête, Gaxot a réhabilité ce roi, dont nous savons surtout qu'il fut libertin et dont il sait, lui, que s'il est fort décrié dans les manuels, ses sujets n'en ont pas moins connu un exceptionnel bonheur. Vous vous en doutiez ? Cher Louis XV, il nous manque bien. Depuis 1928, où il publia à 32 ans son premier grand ouvrage, La Révolution française, qui fut traduit en toutes langues et même en japonais, Gaxot a donné un livre tous les 5 ans, où l'on retrouve toujours ce double talent du détail, anecdotique et de la synthèse. Alors, les aventures humaines redeviennent sous sa plume tissées de jours et de nuits, de joies et de larmes, de chair et de sang, tout en s'inscrivant à leur place dans cette grande aventure qu'est l'histoire. Un peu plus loin dans son article, François Giroux écrit « Depuis quelques mois, sa santé déficiente l'oblige à ménager ses forces, mais au pire de ses maux, il sourit, avec cet air de dire « Je vous en prie, ne parlons pas de moi, ce détail est sans importance. » Il aiguise son regard et hop, en 10 secondes, il a tout vu. « Qui vous a fait cette jolie robe? Montrez-moi votre bague. Mes pierres, vous la connaissez, je l'ai depuis 5 ans. Je sais, mais j'aime la regarder. » Prince de l'esprit et seigneur du goût, la dent dure et le cœur tendre. Pierre Gaxot pourrait être aussi professeur dans l'art de vivre.
Donc, j'ai fréquenté mon oncle très régulièrement jusqu'à sa mort en novembre 1982. Et quand il est mort, que j'ai appris qu'il m'avait nommé, si je puis dire, légataire de son œuvre, de toutes ses archives. C'est pourquoi je cherche à faire vivre un peu cette œuvre qui est énorme, finalement. Peut-être pas toujours bien connue, surtout sur le plan journalistique. Pierre Gaxot était célibataire, j'étais un petit peu son fils, ce qui explique cela. L'année de sa mort, il avait publié son dernier livre intitulé « Le Purgatoire », ce qui n'est pas dénué d'humour, d'humour un peu noir, mais il disait toujours « quand un écrivain disparaît, il entre au purgatoire ». En classant ses notes et tout ça, j'ai d'abord trouvé une série d'articles intitulés « Lettre à ma filleule » et qui était publié dans le journal Ouest-France. Et sa filleule, je le savais, était la fille de Georges Dumézil, Perrine Dumézil. Quand j'ai trouvé ces articles, immédiatement, j'ai passé un petit coup de fil à Monsieur Dumézil qui m'a reçu très gentiment, qui m'a dit « il faut absolument qu'on fasse un livre et qu'on le publie ». Et ça a été la première publication. Plus récemment, en 1996-17, aidé par quelques amis qui le connaissaient, nous avons réuni environ plus de 70 chroniques du Figaro dans un livre qui a été publié chez Fayard sous le titre « Le blasphème du professeur Python ». C'est un titre un peu bizarre, mais c'était le titre d'une des chroniques. Et encore plus récemment, étant donné que je suis toujours à la recherche des correspondances croisées, des nombreuses lettres de tous ces personnages importants du siècle qui vient de se passer, j'ai eu la chance d'approcher la fille de Jean Anouilh, Colombe Anouilh d'Harcourt, et de lui dire que j'avais beaucoup de lettres de son père. Alors elle m'a aidé, nous avons trouvé les lettres de Pierre qui étaient conservées par la dernière amie d'Anouilh, Madame Wetzel, et nous avons pu publier cet échange de correspondance qui est tout à fait charmant et qui tombe bien puisque cette année 2010 est l'année du centenaire de la naissance de Jean Anouilh. Donc, pour terminer, je dois vous dire que je dois beaucoup à Pierre Gaxot. Il m'a apporté beaucoup en me parlant, tout cela. Il a certainement beaucoup influencé ma façon de voir les choses, en particulier ne pas se laisser berner par le clinquant, le brillant, et beaucoup d'autres choses. Il m'a mis en relation avec toutes sortes de personnes très intéressantes sur le plan intellectuel. Il a été vraiment un deuxième père, alors que mon propre père est décédé très jeune. Il est rentré du camp de concentration d'Achaux par miracle, mais il n'a pas longtemps survécu à cette atrocité. Donc, encore une fois, je dois beaucoup, beaucoup à Pierre Gaxot.